Europe 1.
Votre grand journal du soir avec les grandes voix qui vous entourent, Nathalie Lévy.
Oui, les grandes voix ce soir dans ce studio. Catherine Ney, bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bienvenue
Nathalie.
À vous Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, messieurs, bonsoir et bienvenue également.
Bonsoir.
Catherine Ney qui signe ce livre Souvenir, Souvenir aux éditions Robert Laffont. On avait envie de vous entendre évidemment ce soir nous en parler. Catherine répondra à nos questions, nos interrogations, des anecdotes. Il y en a sur vous aussi, messieurs, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, parce que il y a pas loin d'une vie, en tout cas dans ce livre, Catherine. Oui, il y a carrière, vos débuts, évidemment vos rencontres, le métier, la politique, bien entendu. Alors, première question que je vais vous poser, parce que tout le journalisme, la politique, tous les secrets, vous les connaissez. Mais j'ai découvert que Catherine Ney, en fait, avait voulu devenir journaliste, non par conviction, non pour raconter le monde.
Non, c'est sur un fantasme. J'étais dans le train avec ma mère et trois de mes frères et on partait comme tous les étés en Touraine, chez ma grand-mère, passer l'été. Et mes frères bougeaient beaucoup, enfin, dans le compartiment, parce qu'à l'époque, c'était des compartiments. Et j'étais près du couloir, et j'ai vu sortir du compartiment à côté une jeune fille, une jeune femme qui devait peut-être avoir 20, 22 ans, qui a baissé la vitre, qui a allumé une cigarette, qui s'est mise à fumer comme ça, elle regardait droit devant elle. Indifférente au va-et-vient des gens qui la bousculaient. Et je voyais cette fille qui était seule, qui voyageait seule, qui était libre, qui avait l'air de maîtriser sa vie. Moi, je l'admirais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est journaliste. Et voilà.
Et c'est
là. Donc, mon envie d'être journaliste, c'est sur un fantasme. Alors, si je voulais faire bien, je dirais, mais ma grand-mère avait été écoutée, Louise Weiss à Tours, qui était la grande suffragette qui se battait pour le vote des femmes, ou elle admirait aussi beaucoup Alexandra David-Néel, enfin, qu'une de ses amies avait connue. Donc, je pourrais dire, c'est parce que c'est ces exemples-là, mais pas du tout.
Pas du tout.
C'est sur un fantasme.
Exactement.
Et après, j'ai toujours voulu être journaliste.
C'est ça, cette sincérité. Donc, dans les toutes premières pages de votre livre, Catherine Ney, évidemment, il y a ce parcours très lié à Europe 1. On va y venir dans un petit instant. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou ont partagé et partagent encore, évidemment, tant d'aventures professionnelles, politiques et humaines avec vous. Il y a évidemment cette longue période à l'Express, parce que c'est quand même là, et c'est une sorte de fantasme là aussi, l'Express, vous mettez en tête que ce sera là ou rien d'autre, et vous y arriverez à force d'un stage, à force d'une rencontre, mais vous y arriverez.
Oui, c'était une obsession et je m'étais dit, je voulais absolument entrer à l'Express parce que c'était pour moi à l'époque, vous savez, le News Magazine, c'était quand même quelque chose de très nouveau, la forme à la fois chic et c'était un condensé de l'actualité avec tous les sujets qui étaient traités, aussi bien société, puis c'était un format nouveau, c'était l'enfant de Jean-Jacques Servan-Schreiber et de Françoise Giroud, c'était très beau. Et puis quand j'allais à Périgueux justement voir mes parents, je voyais que tous les gens lisaient l'Express. Donc c'était le journal où il fallait être. D'ailleurs après, quand le News Magazine a été lancé, c'était dans les années 64, tout l'Observateur est devenu le Nouvel Observateur. Enfin, tout le monde a copié sur Jean-Jacques. Et donc, je m'étais dit que si j'arrivais à faire un stage, je n'en repartirais pas.
Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, j'en suis repartie et on est revenu me chercher après.
Exactement. Voilà, et évidemment, il y a toute la page Europe 1. On va y venir dans un petit instant. Je voudrais juste qu'on entende un petit message ce soir avant de vous entendre, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, qu'on a enregistré un petit peu plus tôt dans l'après-midi.
J'ai le souvenir de son entrée dans le journalisme, qui à l'époque était encore très peu féminin, comme une superbe jeune femme qui laissait tout le monde pantois. J'ai le souvenir quand elle rentrait dans des restaurants, les gens faisaient « Ah !» en la voyant tellement, elle l'est toujours, hein, mais tellement elle était sublime à 25 ans. C'est la seule personne qui me fait rire sans arrêt par sa vision des choses, par la façon dont elle décrit les gens. C'est bon mot quand même. Elle a des formules extraordinaires, Catherine. Ça me faisait rire quand on avait 25 ans et ça me fait toujours rire maintenant. Elle était à la fois une journaliste professionnelle de politique. Au fond, on s'aperçoit maintenant que toute sa vie, elle a aimé la politique et qu'elle n'aime que ça. Et je peux vous dire que l'écouter avant qu'elle fasse ses papiers, ce qu'on faisait tous les jours de bouclage, c'était déjà un festival.
Voilà, vous aurez tous reconnu, fidèles auditeurs d'Europe 1, Michel Cotta. Michel Cotta et vous-même, on voyait donc aux quatre colonnes, elle suivait la gauche, vous suiviez les gaullistes, chacune son cheptel, hein, c'est ce que vous écrivez.
Oui, ça chasse gardée. Oui.
Exactement, et vous allez nous le dire juste après la pause, mais en fait, c'est pas François Giroud qui a choisi de vous y envoyer, mais Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et vous allez nous dire pourquoi dans un instant, Catherine.
Et si vous aussi, vous avez des souvenirs avec Catherine Ney à l'écoute d'Europe 1, n'hésitez pas à venir nous le dire en direct sur Europe 1, c'est le 39-21 qu'il faut composer. Les grandes voix, C'est avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix comme chaque jour jusqu'à 19h. Des grandes voix très spéciales ce soir, sans débat, avec Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, puisque nous dévorons le dernier livre de Catherine Ney, Souvenir, Souvenir, un livre paru chez Robert Laffont.
Oui, c'est l'histoire d'une femme libre en fait, Catherine Ney, dans ce livre. Alors évidemment, il y a toutes les années l'Express qui vous ont construite, qui vous ont évidemment fait goûter à toutes les strates de la vie politique. Et puis il y a évidemment la maison, cette maison Europe 1 à laquelle vous êtes tellement attaché. Et Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, bien sûr, vous en faites partie parce que dans ce livre, il y a des anecdotes qui se réfèrent à vous. On va y venir dans un petit instant. Comment vous voyez arriver Catherine Ney, tous les deux, Charles Villeneuve ?
Comme une femme.
C'est-à-dire ?
Parce que c'est l'une des premières, c'est l'une des... C'est vrai, c'était quand même singulier. Gérard et moi, je pense, je ne me trompe pas, Gérard, nous avons connu une rédaction qui était quasiment dépourvue d'éléments féminins.
Il y avait une femme sur 100, en gros.
Voilà,
oui. Hein, c'est ça la proportion, pour vous donner la proportion aujourd'hui. Et Michel Cotta, quelque temps, puisque moi j'ai remplacé Michel Cotta en 70, et Catherine est arrivée juste après.
71, toi.
Oui, 71.
Moi, 70, et toi, 75. Mais on a vu arriver, vous savez, personne ne traversait la rédaction d'Europe 1. Personne qui appartenait aux variétés, à l'entertainment, personne n'osait traverser, tellement elle était d'abord misogyne, en gros. Et tellement elle était quand même assez musclée, parce qu'il y avait des journalistes qui étaient vraiment des signatures de grand renom, des Jean Boissonnat, des Pierre Mottet, des Jean Gorigny, etc., etc. On la voit arriver comme ça, et puis elle s'est imposée très vite, parce que Catherine, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Robin, une famille », et c'est une famille. D'ailleurs, on appartient à cette famille, nous sommes quasiment les derniers dinosaures de cette famille. Et on la voit arriver avec bienveillance.
Oui, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Vous avez de la chance, vous travaillez avec Catherine Ney ». Je disais « Ben oui, c'est ma copine de bureau, Catherine Ney ». Et c'est vrai, c'était ça, la famille Europe à l'époque. D'abord, il faut dire, ça a un petit peu changé depuis, parce que les temps ont changé. Mais c'était une rédaction qui était extrêmement exigeante, avec des patrons qui étaient de très grande qualité, mais qui étaient des durs à cuire. Il ne fallait pas leur raconter l'histoire. Et quand à 9h du soir, après une journée de travail, il y avait Jean Gorigny qui disait « Tiens Catherine, au fait, il me semble... »
Mais moi, je ne suis pas arrivée avec Jean Gorigny.
Non, tu n'es pas arrivée après, toi.
Non, je suis arrivée avec Étienne Moujotte.
Nous, avec Jean Gorigny, mais après, oui. Ça a été quand même pareil avec Moujotte. Mais il faudrait me trouver Poniatowski, ou il faudrait me trouver je ne sais pas qui, à 9h du soir, au moment où on se dit « Ça y est, la journée est finie, je vais pouvoir aller chez moi ou aller avec mes copains. » Eh bien, il fallait foncer.
Alors,
et
je voudrais
puis...
juste qu'on écoute à Catherine. Catherine, oui. Ces papiers que vous avez signés pour Europe 1, on en a retrouvé, évidemment. Voilà. Cette archive de 1975.
L'avant-dernier Conseil des ministres de l'année s'est terminé dans la bonne humeur. En cette veille de Noël, le président de la République et ses ministres ont envoyé à Jacques Chirac en voyage aux Antilles leurs vœux affectueux pour lui et les populations des Antilles et Guyane. Vous voyez, c'est très très gentil. Et puis, Mme Giroux, en cette fin de l'année de la femme, a tiré les conclusions de ces différentes enquêtes. En résumé, la femme française serait plus heureuse si elle pouvait mieux concilier travail et famille. C'est en effet l'éternel problème. Mme Giroux a précisé qu'en France, 37% des femmes préféraient être un homme, ce qui prouve au moins que 63% d'entre elles sont bien dans leur peau, ce qui n'est pas si mal. Voilà, André, l'essentiel du conseil.
Alors Catherine Ney, juste, là, ça fait pas longtemps que vous êtes à Europe 1. C'est vraiment les tout débuts, vous vous souvenez ou pas?
Mais je m'en souviens parce que j'avais quand même très peur. Et vous savez, j'ai quitté. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'Express, c'est aussi que je me suis dit, si je quitte pas l'Express, je n'écrirai jamais. Parce que j'étais terrorisée par François Giroux. J'avais une forme de blocage. Quand on faisait une conférence et que j'expliquais un papier, on me disait, écoute, tu écris comme tu racontes. Ouais. Et puis au moment de raconter, ça ne venait pas. Et donc quand il y avait le bouclage, alors que j'arrivais tôt le matin, à 6h, je n'avais rien écrit, je me précipitais dans le bureau de Jacques Duquesne, qui réécrivait à peu près les papiers de tout le monde. Je lui disais, mais écoute, t'as le cerveau.
Vous lui racontiez, hein,
oui,
c'est ce que vous dites.
Voilà,
dans le
je lui racontais ce que je voulais dire, et puis un quart d'heure après, c'était fait. Je lui dis, écoute, je ne sais pas comment tu fais, t'as le cerveau branché au stylo. Mais moi, je ne le faisais pas. Et donc, je savais qu'en faisant dans une radio, si vous avez un papier à faire à 13h, vous ne dites pas, attends, je serai prête à 14h. Donc, ça m'a absolument décoincée pour écrire les papiers, mais les premiers, j'étais j'étais quand même assez... je ne faisais pas d'analyse, je faisais surtout du récit. Et alors, je travaillais beaucoup avec Gérard Carrérou. Nous partions ensemble sur les congrès. Et ce qui était formidable, c'est qu'on était très, très, très complémentaires. C'est-à-dire que Gérard voyait toujours les rapports de force, les grandes analyses politiques. Et moi, je voyais les rapports humains, ce qui se clochait entre les uns et les autres. Et on faisait finalement le récit en étant vraiment un duo où on remet toute la palette des informations
étaient données. Vous rapportez cette scène, page 233, ça vous est adressé, Gérard Carrérou. C'est Jacques Chirac, alors, qui s'en prend à Gérard. Ce petit voyou de Carrérou, s'il se pointe à Matignon, je le ferai sortir à coups de pied dans le derrière. Vous avez su ?
Oui, il l'a vraiment dit. Et d'ailleurs, je lui ai posé un an après. Bon, entre-temps, j'étais retourné à Matignon. Mais un an après, je lui pose la question. Je partais avec lui en Russie. Et je lui dis... Monsieur le Premier ministre, j'ai du mal à croire que vous ayez dit ça à mon propos, que vous alliez me botter les fesses pour si je venais. Il me dit, mais monsieur Carrérou, jamais de la vie, vous imaginez que j'aurais pu dire une chose pareille. C'est votre ancien patron qui a inventé ça. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, j'avais jamais cru, effectivement. Voilà.
Bon, on va y revenir dans un instant. Il y a une anecdote aussi avec Charles qui vous a accompagné à Damas. Et les questions des auditeurs, bien sûr, au 39-21.
Mais si vous avez envie de poser des questions à Catherine Ney, c'est effectivement par téléphone que ça se passe, ou sur Twitter, on lit vos messages, vos réactions, vos souvenirs avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix comme chaque soir jusqu'à 19h. Des grandes voix très spéciales ce soir puisque nous découvrons les mémoires de Catherine Ney avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou dans ce livre Souvenir qui vient de paraître chez Robert Laffont et qui est signé Catherine Ney, évidemment. Alors Edith nous appelle depuis Bordeaux, une auditrice donc au 39-21 qui a une question pour vous. Bonsoir Edith.
Oui, bonsoir les grandes voix, bonsoir Nathalie, bonsoir Catherine Ney.
Oui, bonsoir.
Beaucoup d'admiration pour cette dame, vraiment dont le parcours m'a passionnée, je l'écoute régulièrement. J'ai une question importante, vous qui avez très bien connu Simone Veil, moi j'ai 64 ans, j'ai rêvé qu'un jour elle se présente au présidentiel, est-ce qu'un jour elle en a eu l'idée, est-ce qu'un jour elle vous en a parlé ?
Non. Je pense qu'elle n'en a jamais eu l'idée. D'abord, la politique n'était pas vraiment à l'origine son envie. Elle est entrée comme ministre de la Santé parce que c'était une idée de Marie-France Garraud qui a suggéré ça à Valéry Giscard d'Estaing qui cherchait des femmes. Et il a pensé que, vu son passé, qu'on ne connaissait pas en 1974. Quand Simone Veil a présenté la loi sur l'avortement, personne ne savait encore le passé qu'elle avait eu dans les camps de concentration. Elle ne l'a dévoilé qu'en 79. C'est ça qui peut paraître curieux. Et donc, elle a fait passer cette loi, ce qui l'a rendue très populaire, mais jamais, elle n'a... Moi, je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle voulait être présidente de la République. D'abord parce que je pense qu'elle elle pensait qu'elle n'avait pas le bagage politique suffisant. C'était une magistrate, ce n'était pas son avis. Et son couronnement a été de devenir la présidente, la première présidente du Parlement européen qui est sortie du suffrage, élue au suffrage universel. Mais c'était une femme que j'aimais beaucoup, que je craignais aussi parce qu'elle avait un caractère un petit peu pas toujours facile. Elle me disait, moi je commence toujours par dire non quand on me demande quelque chose, et on la craignait beaucoup, mais quand on voyait cette femme avec ce beau visage plein, ses yeux verts, et puis quand on pensait, après quand j'ai su tous les malheurs qu'elle avait eus, donc on lui pardonnait ses coups de colère, parce que je l'ai vue plusieurs fois traiter assez mal ses collaborateurs, mais elle avait ce caractère comme ça, mais on l'admirait beaucoup, et c'était quand même quelqu'un d'assez extraordinaire.
On a une autre question pour vous, merci de votre appel Edith, une question de Didier au 39-21. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir les grandes voix, bonsoir Catherine. Ma question, bonsoir, rapidement, vous avez évoqué, enfin l'un des intervenants a évoqué tout à l'heure la présence de patrons de presse qui était extrêmement exigeant. Comment est-ce que vous considérez que l'information est, je dirais, mise en forme avec une grande qualité actuellement, dans la mesure où, par exemple, quand on arrête quelqu'un en Écosse, toutes les radios en parlent et en fait on s'aperçoit que c'est faux. Est-ce que vous considérez que le métier de journaliste a été exercé correctement à cette occasion ? Merci.
Sur la politique, Catherine, l'évolution de la...
C'est un autre...
Non, j'ai une réponse.
Bon, mais écoute, si tu veux faire la réponse à ma place, mais...
J'ai une réponse parce que...
Ça débat toujours dans les grandes voies des
exigences. J'ai une réponse parce que, justement, l'un des seuls médias qui a été méfiant et qui a essayé de recouper l'information et qui ne la recoupant pas a été extrêmement prudent, c'est Europe 1. Dès la veille même, je me souviens d'ailleurs du directeur de la rédaction Donna qui, voyant qu'il n'y avait pas de recoupement de cette information avec précision, a mis en garde ces journalistes qui ont été eux-mêmes très prudents.
Catherine, j'aurais deux, trois questions encore à vous poser parce que, évidemment, l'heure tourne. Bon, évidemment, c'est un milieu très masculin quand vous arrivez en politique et elle l'a dit, évidemment, Michel Cotta avec votre allure, etc. Quel rapport vous entretenez avec les hommes politiques? Vous les avez tous vus défiler. Vous avez d'abord suivi la droite et puis la gauche. Ça a été d'ailleurs un vrai virage pour vous.
C'est pas un virage pour moi, mais c'est-à-dire qu'à l'Express, j'étais spécialisée, entre guillemets. Puis quand on est à Europe, on ne peut plus être spécialisée parce que quand on est de permanence un week-end et qu'il y a un congrès socialiste ou un congrès radical, on couvre tout. Et c'était beaucoup plus intéressant, d'ailleurs, d'avoir une vue d'ensemble de la vie politique. Ouais. Donc, c'était une chance, au contraire, d'aller... Donc, c'était une radio exigeante parce que Gérard l'a dit. D'abord, c'était en continu, vous voyez. Et je me souviens de cette conférence du soir, vers 19h, quelquefois 20h, où on me disait, tiens, il y a Jospin qui arrive du Guatemala, tu veux pas aller le chercher ce soir à Roissy? Alors on disait, ben oui, bien sûr, et si on avait un dîner, il fallait tout décommander. Il n'y avait pas d'heure, vous voyez, parce qu'il fallait venir en direct le matin pour faire les papiers, soit à 7h, soit à 8h.
Ça vous a changé considérablement de l'Express.
Ah, de l'Express, on faisait... Mais oui.
Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, évidemment l'évolution du métier, l'évolution des éditorialistes aussi, politiques, l'évolution à travers les médias, la matière politique, à travers les médias, vous avez vécu évidemment la cohabitation. Racontez-nous en quelques mots comment vous vivez ça et comment vous le transmettez.
Bah écoutez, je le transmets comme que ça soit la cohabitation ou le socialisme du début de l'ère Mitterrand, ça, on raconte quoi. On essaie de voir les gens. On fait exactement le même métier. La cohabitation n'y a rien changé.
Le seul avantage de la cohabitation, Catherine, c'est peut-être que comme il y a deux sources de pouvoir, il y a un pouvoir à l'Élysée, un pouvoir à Matignon. On arrive à avoir les journalistes, c'est plutôt pain béni dans ces périodes-là pour avoir des confidences, pour avoir des infos, parce que ça fuite de tous les côtés.
Il y a deux moments clés dans ton livre qui sont importants. Je voudrais que tu racontes notamment, c'est concernant les deux chefs d'État, l'un de droite et l'un de gauche, qui ont beaucoup pesé sur la vie et sur l'histoire d'Europe 1.
Alors là-dessus, ce sera terminé.
Oui, non, parce que quand je suis arrivée à Europe 1, il venait d'y avoir une crise et le patron avait été viré. Maurice Segel avait été viré sur ordre de Giscard parce qu'il jugeait, alors vous savez qu'Europe c'était à l'époque une société d'économie mixte, l'État avait 49% et monsieur Lagardère et Sylvain Floira en avaient 51%. Et donc Giscard a trouvé que vraiment le patron gagnait trop d'argent et qu'il fallait qu'il s'en aille. Il a demandé à Denis Baudouin, il gagnait au moins deux fois ce qu'il voyait, donc il l'a renvoyé. Et donc, ça a quand même beaucoup changé la vie de cette radio. Alors qu'il marchait très bien, qui a continué très, très bien marcher avec Étienne Moujotte. Mais c'était vous dire quand même le rôle que jouait l'Élysée, et qu'il n'avait pas apprécié qu'il soutienne Chaban. C'était ça l'histoire. Et puis quand Mitterrand est arrivé au pouvoir... Puisque la radio était une radio plutôt libérale, avec des grands éditorialistes comme Jean Bressonnat, qui reflétait une certaine vision de la vie économique, il a décidé, puisque la gauche était au pouvoir, elle devait être à la gauche ce que Europe 1 avait été pour Giscard, c'est-à-dire devenir une radio socialiste. Et tous les gens importants qui avaient une position ont été virés. Et moi, je dirais que ça a été, et ça, mes amis pourront vous le dire autour de la table, nous étions la radio numéro 1 devant RTL. Et à partir du moment-là, nos éditeurs sont partis. Ça a été une dégringolade que nous avons payée. Peut-être que nous continuons à payer depuis le temps, mais ça a été vraiment... Voilà,
les coulisses aussi. Grâce à vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Et souvenir, il y aura un deuxième tome, Catherine Ney.
Oui.
Voilà, ça c'était aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous raconter ces souvenirs, Catherine Ney. Merci. Europe 1.